Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Une des questions que se posent de plus en plus sérieusement les féministes françaises, c'est celle du séparatisme. Le journal Le Monde s'en est fait l'écho récemment avec un papier intitulé « L'hétérosexualité, c'est terminé ?» pour l'interrogation. En octobre, le festival Des sexes et des femmes avait d'ailleurs intitulé sa deuxième édition « Sortir de l'hétérosexualité » et là, il n'y avait pas de point d'interrogation. On pouvait assister à un atelier sur l'érotisation de la violence, à déconstruire d'urgence, tant il est vrai que nos désirs et nos imaginaires sexuels sont construits autour de la domination et que nous avons appris à érotiser et à désirer des simulacres de violence sexuelle. En mode plus consensuel, il y avait aussi une réflexion sur le thème « Comment retrouver du pouvoir dans l'hétérosexualité? Est-ce possible? Et si l'on peut s'en sortir, comment y rentre-t-on ?» Le festival offrait enfin à l'écoute un podcast appelé « Adieu monde hétéro » qui raconte comment 6 personnes essaient de vivre en dissidence de l'hétérosexualité. Dans la vraie vie, certaines femmes ont en effet décidé de renoncer au sexe. D'autres, comme Marcella Yacoub, de se mettre en couple avec elle-même. C'est en tout cas ce qu'elle défend dans son dernier livre. On a aussi beaucoup entendu la grande Virginie Despentes raconter son soulagement d'en avoir fini avec l'hétérosexualité, d'être sortie de ce qu'elle appelle le marché de la bonne meuf. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas pareillement un marché de la bonne meuf homo, mais en tout cas, Despentes n'est pas loin, elle aussi, de défendre l'idée d'un monde où les hommes et les femmes seraient complètement séparés. Quand vous aurez écouté l'épisode 5 de notre série des hommes violents dans laquelle Mathieu Palin suit un groupe de paroles d'hommes violents, il se peut que vous aussi y pensiez. On y a fait la connaissance de Louise qui a subi des violences conjugales pendant plus de 4 ans. Quelques années après, son agresseur a accepté de la rencontrer et d'être enregistré. Et puis quand il s'est entendu, il a exigé que sa voix soit modifiée. Ça n'a pas été sans discussion ni hésitation dans l'équipe et avec la direction de France Culture, mais à la fin, on s'y est finalement résolu. Tout de suite, donc, Louise rencontre son agresseur des hommes violents épisode 5, Mathieu Palin, Cécile Lafont.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai 2 petites sœurs. La plus grande a 29 ans. Quand elle en avait 14 et moi 16, j'étais tombé sur un échange de mails avec son mec de l'époque. J'ai oublié la raison, mais il menaçait de la frapper, la traiter de pute, de salope. Elle pleurait, elle était petite. J'ai pris les choses en main et menacé le mec. Et ça s'est arrêté là. À l'époque, ni elle ni moi n'avions pensé aller voir la police. Et pour être honnête, si demain ma petite sœur débarquait chez moi avec un œil au beurre noir, je sais pas comment je réagirais. 80% des femmes victimes de violences renoncent à porter leur affaire devant la justice. Parce qu'elles pensent qu'on les croirait pas, parce qu'elles ont peur des représailles et plus généralement parce qu'elles estiment que ça sert à rien. Le groupe de parole ne leur donnait pas complètement tort. Louise fait partie de ces femmes qui n'ont pas porté plainte et ont choisi de s'en sortir seules.
On s'est rencontrés au cours de nos études.
Son histoire commence il y a une dizaine d'années, en banlieue parisienne, alors qu'elle entre en fac de lettres.
Moi j'avais 18-19 ans et lui un an de plus. Et voilà, on était dans la même classe et on a d'abord été amis et puis ensuite on a eu un rendez-vous. Déjà à la base, bon, c'était pas de l'instinct parce que je pense que c'était clair ni chez l'un ni chez l'autre, mais j'avais pas très envie de m'engager dans cette relation. Finalement, j'ai tenté le coup et on a été ensemble et ça s'est bien passé pendant plusieurs mois. Je suis tombée très amoureuse de lui. C'était quelqu'un d'assez solaire, qui avait vachement de prestance, du charisme et tout ça. Il était très apprécié de tout le monde, y compris de moi, en tant qu'ami, voilà. À la base, il n'y avait pas d'histoire, je ne le sentais pas violent, personne ne le sentait particulièrement violent. Parfois, il faisait un peu le bonhomme, mais pas plus ou moins qu'un autre à peu près à cet âge-là. Enfin, voilà. Les premières manifestations concrètes, c'était de la violence psychologique, enfin, des insultes, des trucs comme ça. Et jusqu'à un moment où je me souviens où on était chez mes parents le soir et mes parents n'étaient pas là. Et on s'est engueulé, il s'est énervé sur un truc et là il m'a poussé et je suis tombée par terre. Alors c'était pas spectaculaire dans le sens, il m'a pas balancé contre le mur et je me suis évanouie, mais enfin heureusement, mais il m'a quand même poussé et je suis quand même tombée. Et en fait, il est tout de suite tombé à terre, enfin en pleurant, en s'excusant, c'était le gros drame, etc. Et je me suis dit bon, ça fait partie du problème, il a du mal à se contenir, il a beaucoup de violence en lui, on va régler ça ensemble. Et à partir de ce moment-là, je me souviens pas très bien, mais je pense qu'on en a discuté, et que je lui ai dit ça, il faut absolument pas que ça se reproduise. Il était oui, bien sûr, jamais, je me sens trop mal, etc. Tu devrais me quitter. C'était le premier acte de violence physique claire. Et ensuite, ça s'est calmé pendant un moment, et ça ne paraît pas très logique, mais j'ai emménagé avec lui chez ses parents. Et ensuite, à partir du moment où j'ai emménagé donc, chez lui, j'étais vraiment sur ses terres, un peu à sa merci. Là, on est tombé dans une violence physique claire, c'est-à-dire, ça a commencé avec « il m'a poussé sur le sol, je suis tombée », et ensuite, des gifles, me choper par les épaules et me secouer comme un prunier, me serrer très fort les poignets ou les bras à m'en faire des marques, des bleus, etc., en hurlant, et on est passé des insultes aux menaces, d'abord des menaces de me faire mal, et ensuite on est passé à des menaces carrément de me tuer, des menaces de mort. Et au plus gros de la violence qui est arrivée à l'échelle de notre relation, disons à la moitié de la relation, mais du coup ça a quand même duré 2 ans, c'était des coups de pied dans les jambes, dans les bras et dans le ventre, à des endroits où ça allait pas se voir, jamais le visage. Sauf une fois où il m'avait griffé le visage et j'avais une marque. Et du coup, j'avais pour consigne, entre guillemets, de pas voir mes amis pendant ce moment-là pour pas qu'elles posent de questions. Et des scènes aussi, et là, c'est le plus horrible et c'est ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Ça se passait tout le temps quand on était couchés dans le lit. Il s'énervait dans le noir en plus, donc c'est un côté un peu anxiogène, et tout à coup il se relevait et il mettait ses mains autour de ma gorge et il m'étranglait en me disant « je vais te tuer, cette fois c'est la bonne, tu vas mourir ». Et jusqu'à des moments où je me sentais vraiment partir et où je me disais moi aussi « bah ouais, cette fois-ci c'est la bonne ». Et cette fois-ci, il va vraiment m'étrangler, et quoi que je fasse, que je me débatte, que je crie, que j'essaie de le calmer par des paroles ou que je fasse la morte, il s'arrêtait que quand lui, il avait décidé d'arrêter, c'est-à-dire quand il avait l'instinct que là, il tenait 10 secondes de plus et j'allais vraiment m'évanouir, quoi. Au début, c'était assez espacé, j'ai pas compté, mais c'était peut-être un truc tous les mois. Ensuite, ça a été un truc toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Et à un moment, proche de la fin, c'était tous les jours. Je n'en ai parlé à personne, volontairement. C'est-à-dire qu'il y a des gens très proches de moi, donc une amie en particulier qui m'a posé la question frontalement, est-ce qu'il est violent avec toi, est-ce qu'il t'a déjà frappé, etc. Et je suis montée sur mes grands chevaux, elle m'en reparle depuis en lui disant « mais pas du tout, il n'est pas du tout violent, mais pour qui tu le prends ?» Et surtout je lui ai dit « mais pour qui tu me prends de rester dans une situation si c'était le cas, mais pour qui tu me prends de rester là-dedans, tu me connais pas ou quoi ?» Et voilà. Et que du coup je préférais me dire « bah vas-y, je reste dedans, je vais encaisser, ça va s'arranger. » On va gérer tous les deux, et puis après ça va être bien, ça va être incroyable, et on va avoir dépassé un obstacle tellement grand qu'après on sera le couple le plus fort du monde, et ça va être trop bien. Et en fait non.
Comment est-ce que t'as réussi à le quitter ?
J'étais chez une amie. Elle faisait un apéro avec des copains à elle. Et en fait, on s'était engueulés, donc avec mon copain, vraiment très fort. Et il pétait un câble au téléphone, c'est-à-dire qu'il ne cessait de me harceler, mais il devait m'appeler 30 fois, voilà, et en m'insultant, et en menaçant, etc. Et il me disait, rentre, il faut qu'on règle ça, rentre. Et moi, évidemment, il était hors de question que je rentre, puisque je savais qu'il était hors de lui, et j'allais pas me pointer pour qu'il m'étrangle. Et ça a pas loupé, il a commencé à m'envoyer des MMS avec mes vêtements préférés, il savait très bien lesquels c'était, qu'il avait découpé avec un ciseau et bien assemblé sur le lit, il m'envoyait un MMS, il dit si tu rentres pas, si t'es pas là dans 10 minutes, je passe à un autre objet. Et je revenais toujours pas, donc il est passé à mes bouquins. Donc il a commencé à déchirer à pleine main des pages de bouquins. Enfin, j'imagine, j'avais juste le résultat en photo. Et là, par contre, j'étais vraiment en panique. Et du coup, mon ami qui commençait à s'inquiéter du fait que je sois en train de crier et pleurer dans sa chambre, enfermée dans sa chambre, a commencé à me poser des questions. À ce moment-là, je crois que j'ai déballé. Elle m'a pas forcée à poser des mots clairs, mais elle a très bien compris. Et elle m'a dit, il faut que tu gères la situation, tu rentres pas, tu restes ici, moi je te laisse pas partir. Et c'est exactement, je pense, que ce que j'avais besoin d'entendre, c'est je sais et donc je te laisse pas partir. Et du coup, je maintenais au téléphone, non, je vais pas y aller, je vais pas rentrer, tu te démerdes, on n'est plus ensemble, je veux plus jamais te voir, etc. Et il a dit, j'ai un couteau dans les mains, j'ai pris un couteau et je vais m'ouvrir les veines, je vais me planter ou je sais pas quoi, je vais me suicider. Comme des gens étaient au courant, je savais très bien que j'allais pas rentrer. Je lui ai dit que les gens étaient au courant, donc ils savaient très bien que c'était terminé. Et du coup, le délire est retombé de son côté directement, et il était juste piteux, pitoyable, en train de pleurer. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il allait absolument rien faire, en fait. Il allait juste rien faire, et il allait juste me supplier, et c'est ce qu'il a fait. Et il a rien fait à quiconque, et il m'a plus insulté. Et il m'a plus jamais... Et juste, en fait, après, on n'était plus ensemble.
Est-ce que tu l'as dit à tes parents, ce qui t'est arrivé ?
Je ne l'ai absolument pas dit à mes parents, et je ne leur dirai jamais. J'ai été élevée dans une famille avec une mère qui était féministe et impliquée dans des combats autour du droit des femmes, et qui, pour le coup, se faisait pas du tout, et ne se fait pas du tout marcher sur les pieds... Je pense que ça la détruirait. J'ai pas envie de le faire et j'ai pas non plus envie de me confronter à sa réaction. Et en fait, du coup, c'est vraiment un truc d'incompréhension par rapport à moi-même, de honte et aussi d'images traumatisantes qui me reviennent et qui sont déclenchées. Ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur... j'arrête pas de dire, de balancer ce truc, je sais pas pourquoi, mais de buer sur une paroi de douche, ça peut être... une chanson, ça peut être un endroit, une activité que je fais avec quelqu'un ou que je fais avec mon copain actuel. Et je me dis, mais en fait, je l'ai déjà fait et en fait, c'était avec lui. Et tous ces petits trucs du quotidien me ramènent à cette relation horrible et je sais pas comment me sortir de ces souvenirs. En fait, ce qui a déclenché aussi le fait de vouloir en parler en dehors de mon petit cercle restreint, voilà... c'est que je me suis rendu compte récemment, enfin j'ai pu poser le mot dessus sur certaines expériences qui m'étaient arrivées et je me suis rendu compte qu'en fait il s'agissait de viol, donc de viol conjugal. Et en fait, jusque-là, je pense que je le savais. J'en ai parlé à une amie qui m'a dit « bah oui, je sais ». Je lui ai dit « mais comment ça tu sais ? Je te l'ai jamais dit ». Elle me dit « bah si tu m'as raconté certains trucs, comme d'habitude, en deux mots, entre les lignes, mais elle avait déjà compris ça. Et je pense qu'elle n'est pas la seule, je pense que tout le monde l'avait compris, mais moi, c'était juste... dans ma tête, je me disais, mais c'est un peu le truc de réconciliation. Il y a un peu un mythe autour de ça, genre la baisse de réconciliation. Bon, mais en fait, il y a des moments où il me forçait et que c'était... Et en fait, il était encore dans l'acmé de la violence, de l'énervement, et que sa crise, du coup, tout à coup, il avait arrêté de crier, et il avait arrêté de m'étrangler ou de me donner des coups. Mais juste, du coup, il me violait, sauf que moi, sur le coup, j'étais... Alors, je me suis jamais dit que c'était mon devoir conjugal, puisque ça n'existe absolument pas. Mais je savais que ça allait le faire redescendre, en fait. Alors, c'est... délirant de dire qu'un viol est une manière de se protéger, mais je pense que sur le coup, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que quand on passait à ça, quand ça dérivait là-dessus, je savais qu'après, il allait être calme, mais de manière, limite comme un animal, et que sa colère allait retomber. Et que, en fait, c'était, je pense qu'il se calmait aussi parce que c'était un peu l'outrage suprême qui faisait que, de toute façon, à part me tuer, il pouvait pas faire pire. Et que donc après, il s'était bien vengé. Et un truc dont je me suis souvenue aussi assez récemment, c'est que j'avais un truc trop bizarre où mon cerveau m'endormait. Mais en fait, dès qu'on était couché, mais même s'il était en train de s'énerver, j'avais mis une fatigue. Et j'ai jamais connu ça, vraiment une fatigue horrible où en fait je pouvais pas ouvrir les yeux. C'était comme si j'avais pas dormi depuis 72 heures et j'avais fait la traversée de la Manche. Et voilà, et je pense qu'il y avait ce truc autour de le sommeil, c'est le moment où il va rien se passer, où je vais être protégée. Et donc que ce soit moi qui déclenche mon propre sommeil ou qui déclenche son sommeil en le laissant m'imposer des relations sexuelles. Et du coup il y avait le côté, l'échappatoire c'est le sommeil. Et quand on se réveillera, il sera plus énervé. Et il faut vraiment qu'on dorme.
Le mec de Louise n'a jamais été inquiété. Il n'a pas été jugé, n'a bien sûr jamais mis les pieds dans un groupe de parole. Il est libre, dehors, tranquille. De son côté, Louise va mieux. Elle a fini ses études, a trouvé du travail et vit en couple à nouveau. Elle ne veut toujours pas porter plainte, mais 5 ans après les faits, elle se sent prête à revoir son agresseur.
J'ai juste envie qu'éventuellement il me dise qu'il a compris, qu'il a réalisé ce qu'il avait fait. Ce serait bien aussi qu'il ait compris pourquoi il l'avait fait. Et aussi qu'il me dise que, surtout qu'il l'a pas refait, quoi, avec une autre fille. Parce que ensuite il s'est foutu avec une autre, il s'est mis en couple avec une autre fille. Et j'étais super inquiète pour elle, et à ce moment-là j'avais la culpabilité de pas avoir porté plainte. Et je me suis dit, merde, en fait, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'ai pas porté plainte, je me suis juste barrée comme une lâche. Et ça se trouve, il est en train de refaire la même chose à une autre fille, qui en plus était vachement plus jeune. Et je me suis dit, mais en fait, t'as ta part de responsabilité là-dedans, dans le fait de pas avoir porté plainte, et que du coup, il soit en mesure de le refaire. Après, je pense que s'il me dit qu'il l'a refait, je serais très mal, mais on verra. J'ai peur d'avoir vraiment l'air d'une victime et qu'il soit en mode « Oh, la pauvre. Genre, je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai fait, mais en fait, j'ai pas besoin d'entendre « Oh, je suis vraiment désolée, est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en es remise ?» J'ai pas envie qu'il ait un ton condescendant, genre « Oh, je suis vraiment désolée. »
Qu'est-ce que t'aimerais lui dire?
Qu'il m'a fait beaucoup de mal, que ça me poursuit toujours, que pour le coup, il a quand même bien volé... plus de 4 ans de ma vie. Après, je me les suis volés aussi, mais lui dire aussi que qu'il a un impact de dingue sur ma vie et que franchement, il le mérite pas. Parce qu'au final, l'emprise, il l'a plus directement puisque c'est plus lui qui tire les ficelles, mais l'emprise, il l'a encore, mais il le sait pas.
Tu vas trouver la Jack.
Non, mais en fait. Du son et ça sert à rien.
Louise l'a appelé.
Donc ça sature pas.
Il a dit ok, viens chez moi.
Vas-y, dis n'importe quoi.
Allô, allô, allô. Allô, 1, 2, 1, 2.
Ok. Bon alors, si tu devais décrire rapidement ce qui s'est passé entre nous, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dirais quoi?
De manière générale? C'est ouvert comme question là.
Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as été violent avec moi?
Clairement pas du tout, quoi. Je pense qu'en fait, je l'ai occulté, tout simplement, quoi.
Mais même pas d'une manière où tu... Enfin, un moment où tu m'avais mal parlé ou pas forcément de...
Non, je me doute. Verbalement, j'étais violent, physiquement aussi... Maintenant, la première fois, te dire la première fois, la deuxième, la troisième, c'est pas moi qui suis la victime dans cette affaire. Quand t'es victime, tu sais quels sont les moments qui t'ont touché, je pense, moins quand t'es l'agresseur.
Et est-ce que tu te souviens quand même de scènes, même si t'en as oublié certaines, est-ce qu'il y en a certaines que t'as pas oubliées et qui sortent du lot pour une raison que t'identifies ou pas?
C'est assez compliqué, hein, parce que... Comme je te le dis, je me suis pas replongé dedans. Je me rappelle, d'une scène, mais je pense même pas qu'en plus ce soit la plus violente, tu vois. Où j'avais pété un plomb. Ça se passait entre l'entrée, peut-être la chambre, le couloir, je sais plus. Et je me rappelle taper dans les portes, genre sur la porte d'entrée, les portes de et les placards. Après, précisément, Je me doute que y a sans doute eu des moments où où toi t'as eu l'impression de réel danger, quoi. J'imagine que j'ai dû te taper, mais encore une fois, j'en ai la précision de la chose. Je me rappelle sans doute de coups, violence verbale, évidemment. C'est pas facile.
Mais du coup, quand je te demande si tu te souviens d'une scène, la scène que tu racontes, c'est du coup une scène où tu tapes dans des placards.
Ouais. Si je veux être vraiment tout à fait honnête avec toi, je n'ai aucun souvenir précis. En fait, me rappeler précisément ces moments, combien on a eu, à quel moment ça s'est déroulé, etc., je n'en sais absolument rien, tu vois. C'est-à-dire que je peux essayer de me remémorer ou d'inventer un truc, mais c'est ça qui est terrible, je pense. C'est que pour toi, il s'est passé ça. Bon, c'est pas bien. C'est comme tu te dis presque, bon, allez, j'ai volé dans un supermarché, c'est pas bien, et puis j'ai oublié, quoi, tu vois. Et en fait, la personne en face, elle se rappelle toujours précisément des moments de exactement ce qui s'est passé. Et toi, en fait, ton cerveau, il a complètement occulté, quoi. Typiquement, moi, si j'ai accepté cet entretien-là qu'on est en train d'avoir, c'est uniquement pour des questions de virilité. Et j'en ai pleinement conscience. Parce que fuir devant une situation qui t'est désagréable, c'est pas être un homme. C'est une raison, et l'autre raison, c'est parce que, bien sûr, je me sens nécessairement redevable. Mais j'en avais pas conscience à l'époque. C'est comme quand tu prends conscience qu'en fait, qu'un acte sexuel non consenti, c'est un viol. Le fait d'insister, etc., etc., enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui m'avait presque toujours paru normal, avec toutes les choses atteintes d'une certaine manière à l'idée que je me faisais de la virilité, de ma virilité, donc réponse virile, je sais pas, c'est peut-être une explication.
Sauf qu'en fait, mais moi je me souviens de plein de scènes où après des crises, des machins, où c'était parti complètement en sucette, tu pleurais toutes les larmes de ton corps en disant mais pourquoi je suis comme ça, je me rends compte, c'est n'importe quoi. Pour moi, en fait, t'étais dans la conscience des choses aussi quand même.
Je pense pas du tout. Si j'avais vraiment pris conscience des choses, je t'aurais quitté. Pour ton bien et pour le mien, parce qu'on n'aurait rien pu construire et ça allait forcément se toxifier. Tu t'es peut-être dit, j'ai envie, moi, de le sauver et tout, alors qu'en fait, c'est un chemin que je ne pouvais mener que tout seul. Et du coup, maintenant aussi, une partie du travail que je mène, c'est de me dire, t'entêter dans une relation alors que tu sens qu'il y a des incompatibilités de départ, fini, quoi.
Justement, pour parler de ça, tu dis que c'est là où t'as pris conscience, c'est quand je t'ai quitté. Et de quoi tu te souviens au niveau de cette rupture ?
Ah, ça, par contre, oui, je m'en souviens très très bien. Je vais te le raconter, même si j'en ai profondément honte. T'étais avec une amie, et je sais pas, au téléphone, je pense que j'avais dû sans doute t'insulter, j'imagine. Et puis après, j'avais dû découper tes vêtements, enfin, j'avais fait un truc comme ça, quoi. Je m'en rappelle, quoi. C'est minable, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre.
Du coup, tu dis c'est horrible, je me souviens pas, et toi tu te souviens, et en même temps tu me demandes pas de te dire. Mais. Non, mais je vois les raisons pour lesquelles tu le fais pas, mais.
Tout simplement parce que c'est archi gênant pour moi, tu vois. Enfin. J'ai peur, en fait. C'est juste de la peur. J'ai peur de ce que je vais entendre, tu vois.
Tu te souviens pas de m'avoir étranglé en me disant que j'allais mourir ?
Non, absolument pas, quoi. Absolument pas.
Louise ne peut plus rien contre son ex en ce qui concerne les coups, les menaces de mort et les étranglements. Les faits sont prescrits. En revanche, pour le viol, si elle le souhaite, elle pourra porter plainte jusqu'en 2033. Je suis retourné à Lyon pour la dernière séance. J'ai retrouvé le groupe. Il nous restait 2 petites heures. À ce moment-là, j'étais très loin d'imaginer que je repartirais plein d'espoir.
C'était l'épisode 5 de notre série des hommes violents, disponible intégralement en podcast sur le site franceculture.fr, sur les applis de podcast et surtout sur l'appli Radio France. Un reportage et une série de Mathieu Palin réalisée par Cécile Lafont. Merci bien sûr à Louise et à son ex, ainsi qu'à Aurélie Marsay et Sarah Djiriwi.